on verrait pas le nez du bateau et ça serait vraiment pas pratique pour naviguer. Donc là on a deux lits de place et après au bout il y a une espèce de plateforme qui est un ascenseur à piano. Je suis tombé amoureux d'une pianiste et puis on s'est tapé un délire de vouloir naviguer avec un piano à bord. Ouais, un piano c'est très fragile, du coup il faut que ça soit abrité pour faire les spectacles avec un public à terre. Il faut pouvoir lever le piano, donc le piano est sur un ascenseur et il sort de la coque.
Et au-dessus de nos têtes, là, le toit en fait il est amovible, c'est des panneaux voilà. Qui peuvent se retirer.
Tous les toits sont amovibles, c'est fait comme les cales des chalets en nantais ou des péniches. On peut enlever chaque panneau de toit pour pouvoir charger, décharger, sortir la scène. Tout est modulable.
On passe sur le pont ?
Ouais.
Donc on ressort en baissant la tête, parce que sinon... Là, je me la suis prise une ou deux fois, celle-là. Et donc là, un petit escalier, c'est assez raide. Il est très joli, mais aussi très fonctionnel, surtout. On passe par cette... on dit quoi ? Une trappe ?
Ça s'appelle une descente.
On arrive tout de suite sur le pont. Si je regarde le plancher de la FIO, là, il est quoi
Ouais, t'es à 1m60 du...
5 marches, c'est un peu raide quand même.
C'est un escalier avec des pas japonais, donc ça peut être un peu perturbant, mais moi je le trouve assez confortable.
Et donc nous voilà sur le pont, et alors on a de la chance, en ce 18 octobre, il fait un temps radieux. Et c'est comme ça que je la reconnais, des fois, la fionnerie, elle a une boule à facettes accrochée. C'est pas une boule à facettes du 19e siècle. Hein.
Non, non, la boule à facettes de mes 30 ans. Ça porte chance. Et puis on fait des clins d'œil à tout le monde avec le soleil.
La classe. Et donc là, donc il y a un autre treuil qui lui sert à lever et baisser le mât.
Il y a le pont avant avec un plancher, une cale en dessous où on peut ranger des trucs qui craignent pas trop la flotte parce que c'est pas étanche. Et il y a un gros treuil qu'on a trouvé sur la même épave de péniche là dans la Loire qu'on a démonté complètement et remonté sur des poteaux en bois comme il se faisait sur les chalands au début du 20e. Il y a une chèvre pour baisser le mât, c'est deux grandes perches qui forment un triangle et qui servent de levier pour baisser le mât, parce qu'il est quand même assez conséquent.
Donc là, le mât, il est dressé pour le moment, mais il peut se baisser.
Il est sur un axe.
Oui.
Ouais. Il pivote et il se touche sur l'arrière.
C'est sa première sortie hors Loire à la FIO. Ah, si, non, je sais qu'elle a déjà navigué sur la Vienne. Elle a connu quel cours d'eau avant cette aventure bateau-labo, la FIO ?
La Vienne, un tout petit bout du Cher, la Mayenne, on est allé naviguer. Après le canal de Nantes à Brest, on est allé jusqu'à Pontivy, en Bretagne. On est allé quasiment jusqu'à Saint-Malo par la Vilaine et le canal d'Illérance. On est passé dans Rennes aussi. Plusieurs allers-retours à Nantes, Paimbœuf, on n'est pas encore descendu à Saint-Nazaire. Et là, pour ses 18 ans, on lui offre un voyage dans l'Europe. On a décollé, après le festival de Loire d'Orléans, on a été remis à l'eau sur le canal de Briard.
Genre fin septembre 2025.
Ouais. Le canal de Briard, on est passé par le Loing pour ensuite arriver dans la Seine. Avant-hier, on a traversé Paris.
La Seine n'est pas un canal, mais enfin, on pourrait dire qu'elle est quand même canalisée. La Loire est dite sauvage encore, ou pas trop bitumée et goudronnée. Est-ce que c'est plus calme ici, là, que ce soit sur la Marne ou sur la Seine, que par rapport à la Loire ?
Ah bah là, c'est beaucoup plus calme. Il y a peu de surprises en matière de navigation. C'est un grand couloir qui fait des méandres.
Alors ça te fait tout drôle ? Parce qu'en Loire, c'est une vigilance quasiment de tous les instants, parce que c'est un fleuve qui bouge beaucoup. Le chenal, l'endroit où il y a le plus de profondeur, bouge souvent, parce que la Loire, bah voilà, c'est du sable dans le fond. Enfin, il faut avoir l'œil ouvert tout le temps. Alors que sur la Marne ou la Seine qui est canalisée, bon...
Au niveau technique de navigation, c'est très simple. Il y a de l'eau partout. C'est vraiment pas compliqué. Après, il faut être quand même vachement vigilant. Il y a quand même des gros bateaux qui passent et il ne faut pas les embêter. Parce qu'ils travaillent et puis ils en ont un peu rien à fiche des autres usagers. Quoi. Ils sont prioritaires.
On voit des monstres ici. Il n'y a pas que de la péniche fraissinée. Ça, c'est du 38,5 m. Et il y a aussi des monstres beaucoup plus conséquents hein, qui passent et qui font des grosses vagues. D'un point de vue poétique, ça dit quand même quelque chose, un bateau de Loire qui va naviguer sur d'autres cours d'eau, dans d'autres pays, jusqu'au Danube, peut-être jusqu'à la mer Noire. Et ça dit quoi en 2025 ?
Bon, la filonnerie, le bateau, c'est un outil, c'est vraiment un outil social où quand tu arrives quelque part, les gens ils te sourient et puis ils arrivent, ils viennent discuter parce que c'est pas un bateau qui passe inaperçu. Et du coup, c'est un outil pour lier les gens, pour faire connaître des luttes aussi. C'est vachement important. On vit quand même dans un monde de merde avec des politiques qui s'acharnent à tout broyer. Et d'emmener là sur cette coque de bois un peu de poésie, un peu d'artistique, d'essayer de faire un lien entre les gens qui essayent de sauver le monde un peu. Ouais. Si ça peut amener un peu de joie.
Tu as mentionné plusieurs aspects de l'expédition Bateau Labo, artistique, poésie, etc. Mais il y a aussi voilà, les sciences sociales, des ethnologues, des sociologues, etc. Parce qu'il y a tout un système de tables rondes et aux escales de ce grand voyage. Toute la dimension scientifique aussi, et puis peut-être aussi de bâtir peut-être un protocole d'observation des rivières pour leur préservation, pour qu'elles restent vivantes. Il y a aussi un outil scientifique et d'observation, pas seulement de la Loire, mais de l'eau qui coule dans cette aventure Bateau Labo.
Ben ouais, la filonnerie, c'est une boîte à outils et puis Bateau Labo met plein d'outils dedans et les fait voyager.
Et l'une des questions, qui plane, ça fait longtemps qu'elle plane, mais là elle était clairement formulée sur donc, cette grande remontée 2025, hein, une vingtaine de bateaux qui ont monté de Saint-Nazaire jusqu'au Festival de Loire d'Orléans. La grande question qui a plané sur cette édition, comment va Loire ? Pas la Loire, hein, comment va Loire ? Ton avis, comment va Loire ?
L'humanité la malmène bien, ouais. Et qu'elle survit après. Il y a encore des poissons dedans, elle coule toujours de l'amont vers l'aval. Il y a une bonne période de l'année où on peut pas se baigner parce qu'elle est trop dégueulasse et qu'elle pue, quoi. Donc on peut pas dire qu'elle va bien.
Ouais. Et c'est peut-être aussi de ça dont vous allez discuter avec d'autres usagers, usagères, d'autres personnes qui vivent sur les cours d'eau que vous allez sillonner là pendant cette expédition Bateau Labo.
Ouais, de parler de la propriété de l'eau et aussi de ce que ça fait que d'être attaché à un cours d'eau et l'attachement des populations à ces chemins qui marchent.
octobre 2025, la filonnerie traverse Paris. Sur le pont du bateau, le beatmaker Beat Mataz, en costume d'aigrette, et la chanteuse et harpiste Lowy, en costume de blaireau.
Salut, on s'appelle Bateau Labo, B-A-T-O-L-A-B-O, on navigue pour des rivières vivantes. Salut à toi, habitante de la Seine.
Ce 16 octobre, la filonnerie vient d'achever sa traversée de Paris. Samuel Bautreau est à la barre du bateau.
Bonjour Sam.
Salut JBD.
À la barre de la FIO. Ça va mieux après cette traversée de Paris ?
Là ça va mieux, ouais. J'ai le sourire. Un peu les larmes aux yeux, c'était très très émouvant de passer Paris, de voir tous ces gens qui nous observent, qui nous font des coucous, qui ont le smile, la musique de Chloé, Marco, sous les ponts. Un moment assez symbolique et majestueux et très fort. L'idée c'était de partager ce moment avec les gens qui sont sur les quais, sur les rives, avec des messages que l'on répète, qui sont un peu à l'épicentre de notre projet, pour des rivières vivantes. Quand on parle de rivières vivantes, on parle de tout le reste. Et on avait un café FIO à Juvisy avec Thomas Braille, Julien Leguet, Marine Iscardo. Eux, ils sont dans des combats pour des rivières vivantes et nous, on est à notre endroit aussi de ces combats. Et là, aujourd'hui, c'était un moment de joie et de partage avec les gens qui étaient sur les quais, sur les bateaux.
Alors, il y a eu une interaction assez étonnante, une brigade de la police fluviale. Ça s'est très bien passé, enfin, ça m'a semblé que c'était très courtois l'échange, voire même assez admiratif. La part des policiers quand même, qui n'ont pas l'habitude de voir des chalands de Loire en bois sur la Seine. Eux, c'est plutôt les péniches fraissinées.
Ben, ils n'ont pas l'habitude de voir un bateau en bois déjà, avec un mât. Notre arrivée était tout à fait la bienvenue. Ouais, ça c'est clair, on voit la Défense là, regarde.
Ah bon, on a vu la grande bibliothèque François Mitterrand, le Louvre, le musée d'Orsay, on est passé devant l'Assemblée Nationale, ou alors quelqu'un qu'on aime beaucoup nous a fait coucou depuis le quai qui est juste devant l'Assemblée Nationale.
Exactement, juste après la motion de censure qu'il a votée, il nous a retrouvés et on a salué notre ami Charles, notre député de la circonscription de Tours.
Charles Fournier, l'un des Charles 38 Fournier. Députés du groupe écologiste et social, en Indre-et-Loire.
C'était un moment aussi devant l'Assemblée Nationale qui était important, on a fait un prélèvement d'ADN environnemental comme ceux que l'on fait là depuis le début. Intéressant aussi pour nous symboliquement que de faire ce prélèvement à cet endroit, surtout dans cette période très funeste et trouble avec ce week-end des lois qui proposent un recul complètement majeur.
Au moment où on se parle, là, on est le 16 octobre et il semblerait que dans les jours à suivre, Macron et ses sbires envisagent un décret pour faire en sorte que des espèces vivantes protégées depuis parfois des décennies ne le soient plus. Des espèces par exemple comme l'outarde canepetière pour les bassines, l'outarde ne pourrait plus servir de parapluie pour protéger d'autres espèces biotopes menacées par des grands projets inutiles. Et c'est ça qui est dans les tuyaux de la Macronie en ce moment, c'est de ne plus protéger ce qui était protégé jusqu'à présent pour ouvrir la voie aux bétonneurs.
Ouais, c'est une agression qui est sans précédent pour les êtres autres qu'humains. C'était d'autant plus important pour nous. Alors déjà d'avoir ce geste, parce que ce prélèvement d'ADN, qu'on le fasse devant l'Assemblée ou ailleurs, c'est égal, mais c'est ce geste important qui est un geste pour la science. Connaître voilà, les communautés algaires, parce que c'est le sujet en fait, quand on fait le prélèvement d'ADN, là, il y aura une étude du phytoplancton. On était quand même beaucoup dans le symbole ce matin. On avait des costumes d'aigrette, de blaireau, Chloé en blaireau, Marco en aigrette, les musiciens, musiciennes. C'est devant le muséum où elle a dit, voilà, nous ne voulons pas d'aigrette lyophilisée, nous ne voulons pas de blaireau. Dans vos tiroirs muséographiques, nous voulons des animaux, nous voulons du vivant dans nos rivières.
Voilà. En ce qui concerne donc ce décret écocidaire qui est dans les tuyaux, là, donc de ne plus protéger ce qu'il était jusqu'à présent, une menace contre tout le vivant non humain, c'est aussi une menace contre l'humain, puisque nous faisons partie d'un tout.
Oui, complètement, ouais. Quand on revendique des droits à la nature, quand on revendique une protection plus accrue de nos écosystèmes, de nos sociaux écosystèmes, on en fait complètement partie et si on le... C'est un peu notre credo qu'on est dans des interrelations, on est complètement lié à ce vivant qui est en nous déjà, puisqu'on est composé essentiellement de cellules qui ne sont pas humaines, et tout autour de nous, dans la rivière, et voilà. C'est aussi pour nous, quoi. Pour nous, bref.
Oui. En tout cas, merci pour ce fabuleux moment, cette merveilleuse traversée de Paris. J'ai envie de te prendre dans mes bras micro.
Oui.
On va faire un gros câlin. Bravo, bravo les copains. Vous assurez. Et vous allez assurer comme ça, donc, jusqu'au Danube.
Ouais. Alors, on va pas faire des traversées spectaculaires comme ça dans toutes les villes. Là, c'était un peu le moment fort, quoi. On arrive à la capitale, on a envie de déclamer et de revendiquer tous ces droits. Droit pour les autres humains, droit pour les humains, enfin droit, nos droits. Bon, c'est important quand on arrive à la capitale de dire qu'voilà, il existe des initiatives, des projets dans les autres rivières. Et de créer cette gémellité entre les fleuves et les rivières nous paraît complètement indispensable. Mais sur notre parcours, sur la suite, on va organiser des escales, des résidences embarquées, des temps forts aussi dans certaines villes, dans certains villages. Prochaine étape, c'est Compiègne-Longueuil-Anel. La capitale de la bêtellerie de l'Oise.
Capitale de la lutte victorieuse, bientôt victorieuse, contre le méga-canal. Voilà, Longueuil-Anel, c'est l'endroit où était établi le camp et ce grand rassemblement contre le projet écocidaire de méga-canal, dont on vous a déjà parlé dans cette émission. 107 km d'horreur et 3300 hectares de terres nourricières ravagées, des grands travaux inutiles, en voulez-vous, en voilà. Une horreur à 10 milliards d'euros d'argent public. Voilà, et donc c'est là que vous allez faire étape bientôt.
Ouais, on a hâte de rencontrer les gens sur place et de porter leur témoignage, de porter leur voix qui est absolument indispensable aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut te présenter comme, disons, l'un des maîtres d'œuvre, des architectes de cette expédition bateau au labo, dont tu me parles depuis un moment déjà quand même. C'est des mois et des mois, peut-être des années de travail, non, cette odyssée, cette aventure?
Ouais, c'est 2 ans de travail. On a commencé à peu près à cette période, en 2023. Et oui, moi je suis en coordination générale du projet, mais on est une équipe de 5 à l'architecture du projet, à le travailler un peu au corps depuis des mois, avec des allées, des retours, et aujourd'hui c'est une grande avancée quand même, parce qu'on n'était pas encore sûr de partir il y a ne serait-ce que quelques semaines, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés au démarrage, beaucoup de bâtons dans les roues aussi, mais là maintenant ça y est, on est parti et il n'y a rien qui peut nous arrêter quoi.
Et vraiment avec un côté DIY, hein, do it yourself, fais-le toi-même, parce que bon, les sous vous les avez trouvés vous-même, de l'argent public il y en a peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, vous avez bricolé financièrement ce projet avec des bouts de ficelle et pourtant ça flotte.
Ouais, c'est des bouts de ficelle, c'est un engagement bénévole aussi, ça c'est important de le rappeler, on ne se paye pas sur ce voyage, on arrive à naviguer parce que voilà, c'est dans notre calendrier, c'est anticipé depuis un moment. Mais les petits bouts de ficelle, comme tu dis, les petits bouts de financement qu'on a pu récupérer de ci, de là, c'est vraiment le reflet de cette année 2025 qui est un désastre économique pour les petites associations, pour tous les projets d'intérêt généraux d'une manière générale. C'est vraiment un coup dur, c'est un coup de massue qu'on connaît depuis des années, mais là, cette année, c'est encore plus fort. Et c'est à craindre encore pour les années à venir. Mais on y arrive et on avait vraiment envie de mener à bien ce projet. En ajustant, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on imaginait avec le peu de moyens, mais on a quand même une belle escale parisienne à la MSH Nanterre, à l'île Saint-Denis. À la MSH Nanterre, du coup, ça réunit des scientifiques. Et à l'île Saint-Denis, des initiatives citoyennes, des organisations qui sont en lutte contre le Green Dock, contre le méga-canal, des soulèvements de la terre, des gens aussi qui naviguent, qui vont nous prêter leur voix et témoigner de la manière dont ils habitent, dont ils vivent avec le fleuve. Et puis aussi... porter à connaissance, ça c'est important, de la vision du fleuve telle qu'elle existe aujourd'hui et de celle qui serait quand même beaucoup plus souhaitable pour notre avenir, pour aujourd'hui aussi.
Pour revenir juste sur le volet financement, vous avez boutiqué cette expédition avec très peu d'argent, c'est quoi, c'est 7-8 000 balles, non, j'ai cru comprendre?
Oui, c'est ça, c'est 7 500 euros en tout et pour tout pour 2025, donc pour 2 mois de navigation, ce qui nous permet de couvrir des frais minimaux. Et après, on a lancé un financement participatif aussi pour compléter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas absolument pas faire, mais on n'a pas trop le choix. Enfin, on ne voulait pas le faire dans le sens où c'est pour nous, c'est au service public, en fait, c'est aux collectivités de financer un projet comme ça. On a fini par demander à nos potes et à nos familles s'ils voulaient bien contribuer.
C'est un projet multidimensionnel, donc scientifique, artistique, philosophique, politique sûrement. Allez, on va lâcher le mot. Tous ces axes qui sont conjugués en même temps, il va y avoir tant des artistes que des scientifiques que peut-être des politiques.
Ouais, c'est ça l'idée. C'est un projet un peu rhizome. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inventer un espace de rencontre. Ça, c'est le cœur du projet. On est convaincus, tous et toutes dans l'équipe, que les espaces pour échanger, pour se rencontrer, elles sont de plus en plus faibles. Ça conduit à ce que l'on voit aujourd'hui, enfin, la montée de l'extrême droite, avec des raccourcis qui sont extrêmement forts. Si on organise, on construit ensemble ces espaces de rencontre et d'échange, on pourra échanger sur des sujets hyper importants. Des espaces de rencontre et puis mettre un peu la focale sur les rivières, parce que les rivières sont des espaces qui concentrent, qui révèlent, qui cristallisent des tensions à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on se dirige vers le Danube, parce que c'est le fleuve le plus international au monde, celui qui traverse une dizaine de pays, un fleuve frontière, une frontière molle, avec d'un côté on parle croate, de l'autre côté on parle serbe, d'un côté on parle roumain, de l'autre côté on parle ukrainien. Ça nous intéresse aussi pour mettre ça en perspective avec notre géopolitique de l'eau en France et la manière dont on pense à l'échelle d'un bassin versant. Et donc du coup de croiser un peu les démarches, les approches, d'où l'idée de faire venir des scientifiques, des gens aussi qu'on va rencontrer sur notre chemin à notre bord, des artistes en résidence pour documenter à la fois les travaux que l'on va faire sur le terrain, les travaux des scientifiques aussi, et le traduire avec des médiums très différents. Donc on aura de la vidéo, de l'audio comme ce que tu fais, du dessin, du récit, de l'écrit. Et voilà, nous on imagine ça un peu comme une grande plateforme où on met en réseau, on crée du lien et puis on vient, le projet Bateau Labo, en fait, on raconte vraiment des histoires.
Et puis s'approprier le narratif aussi, comme on dit, hein, qu'on laisse trop souvent aux puissances d'argent, aux politiques, écrire notre propre histoire, ne pas laisser non plus le monopole du récit à d'autres.
Bah oui, je trouve qu'il y a beaucoup de désillusions, une désinhibition aussi de la sensibilité à l'égard du vivant, et puis peut-être une difficulté à se raccrocher à une Ouais, une aspiration, un modèle pour vivre, tu vois, différemment. C'est qu'on nous a proposé un modèle complètement moribond. Enfin, aujourd'hui, on est dans un état de crise qui est sans précédent. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut comme vie, en fait? Toute la question des droits de la nature, elle vient aussi à bord et puis on la transporte, on la véhicule sur notre parcours. Parce que c'est un petit peu comme un gabarit, moi je l'imagine comme ça, comme une trame. La manière dont on structure nos droits à nous, êtres humains, la manière dont on envisage notre rapport à l'eau, une manière très ressourciste, très utilitariste. Enfin, le bassin versant, il est pensé comme une ressource avant tout. Je trouve que c'est assez dramatique, parce que ça dit des choses en fait sur notre rapport à l'eau et au vivant. Du coup, il y a vraiment l'enjeu aussi d'inventer un nouveau langage en fait, une autre manière de montrer, de toucher, d'illustrer la rivière, un bassin versant, et pas que la rivière en fait. C'est juste que c'est l'endroit qui rassemble, c'est l'endroit qui cristallise, qui concentre. Tu prends un verre d'eau, tu fais un prélèvement d'ADN dans cette eau, et t'as une histoire qui est assez incroyable qui est racontée quoi. L'histoire d'un bassin versant, de ses polluants, de ses intrants, de sa charge organique, et du coup de la manière dont la rivière a été aménagée, recalibrée, réutilisée à des fins, voilà. Et donc ça nous paraît important d'être à l'écoute de la rivière, un peu comme un stéthoscope, je prends souvent cette image, à l'écoute du fleuve, et du coup de ses attachements, des combats en cours, et puis des choses belles aussi qui se passe sur les rivières. Il y a aussi de très très belles initiatives, on a envie de les rencontrer.
Ce chaland de Loire, donc il est parti de Brémont sur la Loire, en Indre-et-Loire, vous comptez aller jusqu'en mer Noire.
Cette année, on navigue exclusivement sur les rivières françaises. On va emprunter des rivières et des canaux, l'Oise, canal de Briard, de la Marne, de l'Aisne, le Champagne-Bourgogne, on va rejoindre le Jura, on va voir peut-être des petites montagnes enneigées. Le voyage, il va nous amener, on l'espère, c'est en bonne voie, jusqu'au Rhin et ensuite jusqu'au Danube. On rejoint le Danube en remontant la rivière de la Main. Et donc ça va nous pousser peut-être jusqu'au delta du Danube, qui est situé en Roumanie et en Ukraine, à 4444 km de Saint-Nazaire.
Le bateau, la Fionnerie, est parti de Saint-Nazaire en fait.
Elle n'est pas partie de Saint-Nazaire. Non, mais par contre, il y a René, la petite annexe qui nous accompagne. Ouais. Qui est à la voile, là, juste derrière nous, qui elle est partie de Saint-Nazaire et qui fait partie de Bateau Labo. Il y a René et il y a la Fionnerie.
Voilà, et ce sont ces deux bateaux qui avaient besoin d'être carénés. Hein, c'est ça, un entretien, un petit soin de beauté de la coque qui a eu lieu, mais voilà, et in extremis qui s'est fini juste avant de partir.
Hein. Ouais, c'est un bateau en bois, c'est un chaland de Loire qui a 18 ans. Il y a eu une réfection, un carénage de la coque avec des pièces de bois à changer, des bordées, donc ouais. Des pièces qui sont sur le côté du bateau. Ça a pris 3 mois parce que c'était un travail très lourd. C'est un peu une vieille dame, la Fionnerie. Il faut bien s'en occuper, ça demande du temps, de l'énergie, des moyens aussi. 3 mois asséchés aussi sur les quais de Brémont, c'est pour ça que le départ était un peu houleux, parce que le bois asséché, même si on le calfate, on met de l'étoupe de chanvre, donc une espèce de filasse qu'on vient insérer dans des jointures et qu'on recouvre d'un brai, d'une résine. Quand on remet à l'eau le bateau, comme tous les bateaux en bois, eh bien, ils prennent l'eau jusqu'à ce que le bois gonfle et s'étanchéifie. Et là, ça a pris le temps qu'il fallait, mais on a remis à l'eau le bateau à Orléans et c'était un petit peu trop tôt, donc on a dû le bâcher. Enfin bref, je passe les détails, c'était compliqué quoi. Mais le bateau est en bon état, il flotte et il peut accueillir ce voyage. À bras ouverts.
Voilà, pour que la Fionnerie donc puisse faire combien de centaines de kilomètres?
Ouais, à peu près 4000 bornes, et il faudra envisager le retour, qu'on espère à la voile, et on espère qu'on sera accompagné aussi de Copen, là, de Loire, pour nous aider à remonter. C'est un grand fleuve, le Danube, hein, et remonter ce fleuve-là, ça demande du temps et un équipage.
Tout ce périple, il y aura des escales avec donc des tables rondes, des rencontres.
Des tables rondes, des rencontres, mais pas que du blabla. C'est aussi super de partager des moments autres, et donc du coup, on va créer des modules forains, une fête foraine low-tech, qui sera des outils interactifs, qui seront sur les quais, et qui vont nous permettre d'entrer en relation avec des gens, avec des personnes qui parlent serbe, et nous, on parle pas serbe, et du coup, il faut imaginer des jeux et des outils adaptés et des outils qui viennent traduire cette proposition de loi qui va être déposée à la Commission européenne, cette initiative citoyenne européenne pour les droits de la nature, parce que c'est un peu complexe les droits de la nature, personne ne comprend trop, on a l'impression que c'est que pour les juristes et les avocats ou une frange des écolos, mais en fait c'est des choses aussi qui sont assez simples à comprendre et nous on aimerait bien les traduire et les interpréter sous forme de jeux, de plateaux, mais aussi des jeux à manipuler, donc une roue de la fortune décalée, des tirs à la corde ou je ne sais quoi, enfin bref, des jeux qu'on va imaginer cet hiver avec la Haute École des Arts du Rhin qui nous accueille à Strasbourg. Et ce sera des pieds sur les quais, il y aura aussi des banquets chantés et un spectacle que va créer Chloé avec des étapes de création sur le parcours.
Dans tout tous les angles d'attaque de cette exposition de bateau au labo. Je disais artistique, politique, scientifique et juridique. On vient aussi du département où a germé cette idée en 2019 de Parlement de Loire, hein, donc doté des milieux naturels comme la Loire, d'entités juridiques pour qu'elles puissent être défendues devant les tribunaux. Et vous êtes aussi porteuse de cette idée, de ce concept, qui d'ailleurs a cheminé jusqu'à l'Assemblée nationale grâce à notre député Charles Fournier.
On accompagne donc cette initiative citoyenne européenne. C'est un peu comme une pétition à l'échelle de l'Europe, comme un référendum en fait plutôt. Une fois que cette proposition, qui doit être proposée par minimum 7 citoyens et citoyennes dans 7 pays différents, si elle récolte 1 million de signatures en un an, ensuite elle est déposée à la Commission européenne qui doit examiner cette proposition de loi, mais qui doit s'appuyer sur les compétences de l'Union européenne. Et donc là, il y en a une qui est en cours sur les droits de la nature, qui s'inspire énormément de ce qui existe maintenant sur la lagune Mar Menor en Espagne, qui est le premier écosystème sujet de droit en Europe, avec des règles qui sont assez claires, hein, comité scientifique, citoyen, des droits.
Et une des premières grandes étapes aussi, c'était en Nouvelle-Zélande, la rivière Whanganui.
Il y a la rivière Whanganui, et puis ensuite il y a eu pas mal de fictions juridiques en France. On fait comme si, c'est-à-dire le Parlement de Loire, c'était souvent ça qui était dit hein, tout au long de ce processus, c'est et si on donnait des droits à un fleuve, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Si la Loire est sujet de droit, quels sont les freins, quels sont les leviers, quelles sont les véritables opportunités? Et ce levier, je ne sais pas s'il est juridique, mais en tout cas, il est mobilisateur et il donne envie de se rassembler. Parce que ça peut rassembler, je pense, des gens qui sont de sphère plus académique et d'autres qui sont militants. Je pense qu'il y a plus que besoin aujourd'hui de créer de plus en plus d'alliances. Parce que de l'autre côté, ils en ont des alliances. Et nous, on est quand même très très fort pour se diviser. Peut-être que c'est une opportunité de se rassembler.
Puisque vous voulez qu'on se la joue anthropocentré, libéral, capitaliste et droit, eh bien on pourrait envisager que les milieux naturels, comme par exemple la Loire ou d'autres fleuves, travaillent à notre survie, nous apportent de l'eau, qui nous permet de faire plein de trucs, d'abord de vivre. Le milieu, il fait ce qu'il a à faire, en fait. Ouais. Si ça fait intervenir la notion de travail, ça fait intervenir aussi la notion de droit du travail. Ouais. Mais on devrait aussi rétribuer, par exemple, la Loire pour le travail qu'elle fait pour nous, les humains. Donner de l'argent à la Loire, ça pourrait peut-être aussi lui permettre de se payer des avocats, ou de se refaire des beautés de ses berges, je sais pas moi. Mais en tout cas, allez-y, vous voulez qu'on se la joue capitaliste et pognon, la nature travaille pour nous et tout travail mérite salaire en fait.
Ouais. Et par rapport au travail, moi il y a un sujet qui m'intéresse énormément et on va essayer de l'expérimenter un peu là sur le trajet. C'est l'idée d'un syndicat qui rassemble des usagères, usagers, praticiens, praticiennes du bateau, du fleuve, mais par des pratiques différentes du bateau, que ce soit la pêche traditionnelle, le tourisme et le transport. Trois parmi des usages très importants en France. Il y en a un qui est complètement maltraité, c'est la pêche traditionnelle. Il y en a un qui est très très appuyé, c'est le tourisme. Et le transport qui du coup est assez clivant dans les manières dont on envisage le fluvial aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un intérêt, vu que le syndicat de la pêche est en train de mourir en Loire, à peut-être se réunir autour de cette idée d'un syndicat qui revendique les droits des travailleurs et travailleuses. Mais je pense que par un jeu sémantique, dans la constitution statutaire de ce syndicat, on pourrait essayer de faire le pari que l'on revendique des droits qui soient à la fois des droits des travailleurs, mais aussi le droit du fleuve. Parce que quand on est travailleur sur le fleuve avec un bateau, on a besoin d'un fleuve qui circule librement, on a besoin de réduire les entraves à la circulation des sédiments et des poissons, parce que sinon il n'y a juste pas de poissons. On a besoin d'une eau de qualité pour marcher dans des cyanobactéries et puis ça crée des désastres, enfin, tout ce qu'on connaît en fait, des troubles et des dysfonctionnements des milieux aquatiques. Il y a ce truc-là qui est peut-être à inventer, parce que même dans le transport, tu vois, sur Compiègne, il y a des bateliers traditionnels qui s'opposent à la création de ce méga canal. Ils se retrouvent un petit peu esselés, et est-ce qu'on ne pourrait pas s'unir entre personnes du tourisme qui sont vraiment très engagées, comme Clément et comme d'autres sur la Loire, où on voit dans la grande remontée, en fait, c'est des gens en fait qui amènent des touristes en fait en été, et c'est des gens qui s'engagent et qui viennent au pied du barrage de Saint-Laurent et qui revendiquent une circulation du fleuve sans entrave et sans grosses entraves comme ce stupide mur de Saint-Laurent.
C'est une centrale nucléaire.
C'est une centrale nucléaire. Cette idée de syndicat, elle séduit. Après, à voir, ça prend peut-être du temps, mais je pense que ça permettrait aussi de rassembler d'une manière plus simple, parce que le syndicat, c'est pas les mêmes luttes, c'est pas la même histoire de lutte aussi, parce que les droits de la nature, c'est quelque chose qui est très contemporain de notre époque, pas forcément palpable dans l'immédiat, alors que le syndicat, tout le monde sait ce que c'est. Il y a des gens qui sont syndiqués, et il y a une difficulté, je trouve, à créer un syndicat des bateliers-batelières qui réunit la communauté navigante de France pour des rivières vivantes, pour des rivières libres. Pour des rivières libres, moi, je trouve ça super intéressant comme nom de syndicat, parce qu'à la notion d'écologie de la libération aussi, beaucoup portée, accompagnée par Fatima Wassak, sur cette idée que l'écologie n'est pas punitive, mais que c'est une écologie qui libère les obstacles et qui crée du lien, quoi. Je pense qu'avec Bateau Labo, on va essayer d'accompagner un peu cette idée. créer du réseau entre les gens, créer des synergies, des passerelles culturelles entre les cours d'eau du continent.
Bah, il va falloir des bons traducteurs et traductrices, hein, pour expliquer tout ça et échanger sur tout ça quand vous allez traverser la Serbie, la Roumanie et l'Ukraine.
On en a un sur le chemin. On a rencontré des gens qui parlent serbe, qui parlent allemand, qui parlent hongrois. On va avoir aussi des gens qui vont traduire. Ouais, carrément.